Salut, c'est Champ Libre. Le numéro 661 de Champ Libre sera le dernier Champ Libre. Non, pas le dernier Champ Libre de tous les temps, radiophonique, mais le dernier Champ Libre de la saison. Il faut bien qu'on se repose un peu, surtout Laurent, qui a beaucoup bossé à la technique. Donc l'année prochaine, super, nickel, plus de bugs. Voilà. Et puis, ça permettrait également aux invités mensuels de se ressourcer, et puis à d'autres d'aller voguer sous d'autres cieux, en particulier Damien, qui vient de nous remettre sa lettre de démission.
Et oui.
Voilà, donc bon vent, comme ils disent à Brest.
Oh, bon vent, plutôt en fin d'émission.
En fin d'émission. puis tu reviendras nous voir de temps en temps. Oui, Joe, c'est vrai qu'il faut se méfier. Il n'a pas encore fait sa chronique métallique. Joe, toi, tu restes en Nord-Isère ?
Ah, moi, je reste dans le coin, oui.
Voilà. Donc, Champ Libre numéro 661, le Champ Libre du mois pendant lequel Jo nous parlera d'images qui bougent,
oui.
De cinéma. Damien, vous l'avez compris, de musique plus ou moins métallique. Puis moi, j'essaierai de vous parler de musique et de livres en fin d'émission. En tout cas, il paraît, c'est déjà commencé, que l'été sera chaud. Canicule oblige. Moi, ça me rappelle un été que je ne sais plus s'il était chaud, mais en tout cas, il a été hyper agréable. Et je l'ai passé les yeux rivés à une pochette de disques. C'était une pochette qui s'ouvrait. Elle était plutôt dans les tons rouges sur l'arrière avec les textes de chansons. Et puis les deux volets intérieurs, un fond jaune avec quatre mecs avec des tenues étranges. Et puis sur le recto, des tas de petits personnages. Il y avait de quoi passer plusieurs mois, des dizaines d'heures, à essayer d'analyser tout ça. Et puis surtout de comprendre cette musique qui nous tombait dans ses trous, puisqu'on n'a encore jamais entendu ça. 50 ans déjà. Mmh. Moi, je vais passer l'été là-dedans, avec les Beatles et la réédition du Sgt. Pepper. Mmh. Vous connaissez Rita ? Joe, tu connais Rita ? Non, t'as pas eu affaire à elle.
Personnellement,
non. Damien
non
plus, t'as pas de voiture. Rita, elle est contractuelle. Elle est lovely, Rita. Stop. Les Beatles, réédition 50e anniversaire, Sgt. Pepper, ça ne rajeunit pas. Et puis en plus, il y a un petit conseil, ça vous donne un sujet de discussion pour les repas de famille. Surtout s'il y a des vieux comptes dont je fais partie, vous balancez le sujet stéréo ou mono Sgt. Pepper. Et vous allez voir, ça va marcher plein but.
Le débat.
Voilà, Rock et Folk de ce mois-ci lance le débat en disant chose inutile que la stéréo sur Sgt. Pepper. En tout cas, moi, autant j'adore la version mono, autant j'en prends plein les oreilles avec la version 2017. De
forcément.
Voilà. Les Beatles, on se refait pas ?
Non.
Et toi non plus, Joe ?
Moi, je m'en fais pas, je vais parler de cinéma
tu
aussi.
Tu nous parles
encore.
De
enfin,
films.
Pas vraiment, pas tout à fait de salles obscures pour le coup, parce que...
De Netflix ?
Non, oula, oula.
Ah non, bon, ça.
Non, moi je vais parler de, en vue de cette période estivale qui s'annonce, de quelques petites galettes qui permettent de voir les films chez soi. Donc à travers une petite liste personnelle, mais qui pourra éventuellement vous intéresser, voilà, de deux films et de très bonnes sorties DVD. On va commencer par le plus estival. Moi, je vous proposerai La La Land, déjà qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui est quand même le petit bijou cinéma et musical du jeune Damien Chazelle, hein, qui nous avait tous éblouis avec la révélation Whiplash. Si vous ne l'avez pas vu, il est temps de se jeter dessus. Alors, pour le coup, c'est une comédie musicale qui, je le souligne, peut être appréciée de tout public, même envers les grands réticents et détracteurs des comédies musicales dont je fais partie, je tiens à souligner. Donc, on évite quand même... Oui, voilà.
Ah, c'est pour ça que tu disais du mal.
Voilà. Donc, on évite le
Easy Rider.
Voilà. Bon, on évite quand même le film chanté en continu, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment apprécié. L'ensemble est quand même gentil, sucré, mais ça reste quand même rondement mené. Donc c'est le film estival et familial par excellence. Donc n'hésitez pas.
Donc La La Land.
La La Land de Damien Chazelle. Hein.
Il est sorti en DVD il y a quelques jours.
Trois semaines.
Et,
voilà, environ. Le deuxième quand même sur lequel je vais m'arrêter, c'est comme le fabuleux Silence de Martin Scorsese, qui est comme le grand projet de Scorsese, qui est sorti en salle en catimini, qui paraît enfin en DVD. C'est un sujet quand même qu'il a porté pendant 30 ans, donc c'est une grande réflexion sur la foi, avec les temps qui courent, ça ne peut pas faire du mal. Et c'est pas le film de Scorsese le plus accessible, mais probablement l'un des plus puissants, des plus intimes, donc séance de rattrapage exigée, s'il vous plaît. Donc voilà pour ces deux-là. Et le troisième, petite bombe, Perfect Blue. Perfect Blue du regretté et visionnaire Satoshi Kon, qui a fait Paprika, Tokyo Godfathers, et qui nous la sert son premier film qui est sorti en 1999, très très grand film, qui n'avait malheureusement jamais bénéficié d'une très belle édition DVD, ce qui est réparé, chose faite, avec trois éditions, une première en DVD classique, l'autre en Blu-ray, et enfin et surtout un coffret sublime, proposant un artbook, proposant le storyboard du film, des interviews, plein de documents, et surtout le Blu-ray et DVD, sur un très très bon polar d'une chanteuse se reconvertissant en actrice. Superbe film de Satoshi Kon. Vraiment, je vous le recommande chaudement.
Et donc, on est bien d'accord, tous ces films, tous ces DVD, on les trouve en...
On les trouve...
En hors-isère, on n'est pas obligé
en
de...
En hors-isère, absolument pas, on les trouve, ils sont bien
donc,
disponibles.
La La Land,
Silence, Perfect Blue.
Perfect Blue.
Voilà.
Tu en as d'autres ?
Ouais, je joue quelques-uns rapidement, juste le doublon Pablo Larraine, Jackie Neruda... Qui Jackie Neruda avec une double actualité, deux films du réalisateur chilien, donc sur le portrait de l'ancienne première dame, et le deuxième avec l'extraordinaire fantasmagorie sur le poète chilien.
Jackie Neruda, c'est pas le même film.
Ah, c'est pas le même film, c'est deux films bien distincts, deux faux biopics qui sont vraiment deux bijoux à regarder toute urgence. Et donc je terminerai sur deux autres films, mais je prendrai un petit peu plus de temps sur la rétrospective Kurosawa. Donc, superbes éditions chez Wildside. Donc, vous avez déjà une dizaine de titres qui sont à nouveau disponibles en version très joliment restaurée et remasterisée. Les deux derniers sont les Bas-fonds et l'Ange ivre, excusez-moi. Et on peut quand même se délecter de la beauté visuelle, la force du nouveau transfert noir et blanc, notamment à travers des pépites comme le château de l'araignée, Yojimbo, Chien enragé, ou Entre le ciel et l'enfer, surtout à ne pas rater. Et c'est toutes les précédentes éditions Wildside qui étaient piètrement faites quand même, et qui sont génialement reprises à travers des coffrets très très beaux, très soignés pour le coup. Vu que cette collection Wildside ressort, il est temps de mettre la main dessus. Alors pour Féru de cinéma, hein, de japonais qui plus est, mais Akira Kurosawa en termes de cinéma, on peut s'y attarder longuement parce que c'est quand même le plus occidental du cinéma japonais. Et voilà, c'est une rétrospective juste fabuleuse.
On peut revenir un peu sur Neruda.
Oui,
Jackie.
C'est vrai que j'ai un peu expédié. Effectivement.
Voilà.
Oui.
Pour les auditeurs, bon, Jackie Kennedy, tout le monde voit de qui on parle. Je suppose de l'autre côté.
Oui.
Pablo Neruda, grand poète chilien.
Grand poète chilien.
Mais également grand bourgeois. Chilien.
Grand bourgeois. Donc à travers comme je dis, une fantasmagorie, un faux biopic, à travers un portrait plus que complexe en fait du poète et du personnage surtout. Donc tout
cette chose intéressante qui fait que ce grand bourgeois, comme adulé en tant que poète par le peuple chilien,
exactement,
alors qu'il était tout ce que pouvait détester la population,
la population chilienne, mais à travers ses écrits pouvait s'y reconnaître aussi. Et donc du coup, je trouve que on est toujours à la limite entre le mythe, la fiction, la réalité.
Voilà,
qu'est-ce
ça,
qui
le
est vrai,
sujet intéressant.
Voilà, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui fait partie du mythe, de la réalité, de la fiction. Quelle ville s'invente lui au point d'avoir l'impression d'être pourchassé par le gouvernement chilien non-stop. Enfin, c'est assez fascinant, c'est assez un film génialement fait. Hein.
Et puis à l'inverse, c'est également pour nous, est-ce qu'on gagne quelque chose à connaître l'homme ou la femme qui a écrit
l'œuvre indiscutablement, mais ça revient à la poser la question, peut-on préférer l'œuvre au personnage etc.
Le grand débat sur Céline qu'on a eu
par exemple,
plusieurs fois.
Voilà, exactement. Donc,
voilà, Neruda, c'est pas une biographie, c'est...
Ah, surtout pas, c'est vraiment un faux biopic, comme celui de Jackie, qui se rapproche du biopic, mais qui montre plus l'image de la citoyenne, de la mère, et pas... On délaisse un petit peu le côté politique, parce que ça se passe après le meurtre de son mari. À partir de là, on va avoir une femme qui va s'élever contre les ors du pouvoir et le bien-pensant en fait du gouvernement américain pour vraiment s'élever et décider en tant que femme, en tant que mère, du déroulé et des obsèques et de sa famille et de la survie de sa famille. C'est bouleversant, c'est génialement fait. Natalie Portman est fabuleuse, super talentueuse. Non, c'est vraiment deux films qui se répondent de manière complètement différente, qui se répondent et qui sont deux très grands films, de très très bonnes surprises de Pablo Larraín, qui était déjà un très très bon réalisateur chilien, mais qui en plus montre une adresse à ne pas se répéter en fait.
Je résume tes propositions, un petit récapitulatif comme ça l'auditeur a eu le temps d'aller chercher un crayon. La La Land,
Silence.
Perfect Blue,
Satoshi Kon,
Jackie et Neruda,
la rétrospective Kurosawa, et je terminerai quand même par le très beau Moonlight, donc qui est le film choc du cinéma indépendant américain, qui a été primé aux Oscars, la grande surprise après le fameux imbroglio avec La La Land. Donc à travers ce grand portrait d'un jeune noir homosexuel dans les quartiers difficiles de Miami, l'adresse du film, c'est de ne pas être mélo, pas pato, pas lacrymal, ce qui est un peu l'apanage des films américains parfois sur ces sujets-là. Tout est juste, d'une force inouïe, brillamment écrit, la réalisation est fabuleuse et les acteurs sont géniaux. Pour moi, c'est la grande, grande surprise du cinéma américain. Alors, c'est un film choc. Pas de violence superflue, comme je vous disais, tout est juste, et c'est vraiment un film qu'il faut En plus, son excellent, de son très beau package, de son très bel objet DVD. C'est un film vraiment qu'il faut découvrir. Je dirais presque avant La La Land, parce qu'on parlait des Oscars. La La Land qui est peut-être un peu plus formaté, qui est un peu plus formaté, alors que Moonlight est un direct au Plexus, et c'est un film superbe, vraiment superbe.
Écoute, merci Joe pour cette liste de DVD, de quoi occuper quelques soirées de canicule.
Il y en a juste un qui n'est pas sorti, que je veux, qui doit sortir pendant l'été, c'est Gimme Stranger de
qui sortira peut-être
Gimme Danger de Jarmusch, en fait, qui doit sortir notamment en août normalement.
Un peu décevant, hein, d'après ce que... Ah, même oui. Si on aime beaucoup les Stooges.
Oui. Un peu décevant, oui.
Un peu décevant, oui. Parce qu'il y a...
Pas assez d'inédit, en fait.
Il n'y a pas de Stooges, pratiquement. On parle beaucoup des Stooges.
Moi, je
voudrais rajouter, on en parlait tout à l'heure, la réédition DVD de l'invasion des profanateurs.
Ah, exactement.
David Sutherland.
Très, très, très juste sur le très bon film de Philip Kaufman, très très bon film, probablement la meilleure adaptation des Body Snatchers, en fait.
Qui, contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, ne parle pas de profanateur de sépulture.
Non, absolument pas.
Damien, tu avais un film ou deux à nous... Si, il y a le Poesia sin fin de Jodorowsky qui arrive aujourd'hui.
Qui arrive aujourd'hui en combo Blu-ray DVD, tout à fait. Donc avec les versions Blu-ray et DVD séparées qui ont été repoussées à une date ultérieure non communiquée, le fabuleux Jodorowsky est enfin disponible en combo Blu-ray et DVD.
Voilà, encore faut-il mettre la main dessus.
Oui, pas évident.
Moi, on en reparlera au cours de l'émission... Pour la partie musicale, j'avais envie de rajouter également la réédition DVD et Blu-ray de Purple Rain de Monsieur Prince.
Absolument.
Je vous en reparlerai tout à l'heure. Il y a un coffret, 3 CD, un DVD qui sort. Et puis également le film qui va être édité. Alors, c'est un petit bonbon typique.
Oui.
Des années 80, là aussi. Voilà pour la partie cinéma et la partie DVD. On va écouter un peu de musique. J'avais envie de vous faire écouter un titre du nouvel album de M. Dan Auerbach. Vous voyez de qui je parle ?
Black Keys.
C'est monsieur guitare et chant des Black Keys.
Très bon album. Ouais.
Les Black Keys, pilier du rock blues alternatif moderne. En tout cas, les deux membres du groupe cartonnent depuis quelque temps, puisqu'ils sont extrêmement demandés à la production. Je pense au dernier album de Lana Del Rey, qui a été produit par Dan Auerbach. Du coup, on ne sait pas si un prochain album des Black Keys va être annoncé bientôt. En attendant, Dan, lui... a décidé d'enregistrer un deuxième album solo, le premier date de 2009. Ce premier album de 2009 était un album dans lequel il proposait une musique, un rock plutôt country, avec des ballades planantes et des chansons blues. Là, dans le nouveau disque qui s'appelle Waiting on a Song, les chansons sont un peu plus expérimental, on va dire comme ça, un peu plus psychédélique. Ça ressemble davantage à ce qu'il peut faire avec les Black Keys. Ça reste toujours aussi rétro. Hein.
Oui, mais c'est
modernisé, on va dire.
Modernisé, mais très réussi. Ouais.
Voilà. Donc, c'est un disque qui a été enregistré à Nashville. On se demande où il aurait pu être enregistré sinon. Et on écoute le titre éponyme, Waiting on a Song, Monsieur Dan Auerbach, une musique qui s'écoutera très bien par temps de canicule avec une bonne bière fraîche à portée de main.
I've been thinking Favori.
Pour la dernière fois de la saison, un titre de la réédition du God's Clown, album magique de 1988 de Monsieur John Asherton. Je répète encore une fois, John Asherton fait partie de ces auteurs, compositeurs, interprètes en américain, on dirait songwriter français, même si le nom laisse à penser autre chose. Qui, au fil du temps, nous donne de très très bons disques. Je pense à Elliot Murphy, qui lui est américain, mais vit en France, etc. etc. John Asherton, donc en 88, a enregistré God's Clown. Cet album a été réédité il y a un mois et demi par Pop the Balloon, un label de la région. Ça se remarque aussi. Eh bien, précipitez-vous, c'est un petit bijou. N'attendez pas qu'il soit de nouveau épuisé, il l'a été pendant trop longtemps. Sally Was No Angel, c'est le titre.
Sally was no angel. Yes, she was a fragile. Drag him in down to her feet, to unleash them on the street. Sally was just 16, best idol on the scene, elected by the fans, singing in a rock and roll band. Sally was like a dream, surreal and yet unseen. Her face like a desert night. She wore her jeans too tight. Sally was no angel, looking for hearts to mangle. Used to eat them on the plate. Sally was my steady date.
Sally was like a dream, surreal and yet unseen. A face like a desert night. She wore the jeans she died. Sally was like a dream, surreal and yet unseen. A face like a desert night. She wore her jeans retired. Sally was like a dream, surreal and yet unseen.
Vous êtes toujours dans Champ Libre numéro 661 sur les ondes de Couleur FM, et je passe le micro à Damien qui va nous parler de Sinusoïde Sauvage.
Chers auditeurs, en effet, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle pour certains, cette émission sera ma dernière, vous l'avez compris. Pour fêter ça dignement, j'avais prévu de chroniquer un album qui n'aurait rien à voir avec le métal. Je me trouvais quelques-uns, j'ai réfléchi, et puis j'ai découvert Igor avec 3 R, mais pour les besoins de l'émission, je le prononcerai Igor, comme tout le monde. Hein. J'ai pas cette aisance à rouler les R comme certains le font. Igor, donc, qui a peu à voir avec le métal, mais quand même un peu.
C'est la réincarnation de Ivan Rebroff.
Rien à voir.
Ah bon.
Et plutôt, en fait, il a un peu à voir avec tout, et avec tout ce qui fait mal aux oreilles des non-initiés. Le métal extrême, la dubstep, la musique expérimentale, la musique baroque. En fait, c'est difficile de le définir sans passer par la pratique, alors jugez plutôt. Si vous êtes encore vivant, si vous avez encore vos oreilles, si vous n'avez pas encore appelé le technicien pour être sûr que votre radio marche encore, sachez que l'album que je vais chroniquer s'appelle Savage Sinusoid et il est sorti il y a 10 jours. Cet album démarre avec Viande, une claque sonore tellement énorme qu'elle donne l'impression de se jeter dans un lac d'eau glacée, 2 minutes de violence qui vous scotche à votre siège et vous laisse 2 options. Tout arrêter et aller écouter Sgt Pepper pour se reposer les oreilles, sans vouloir vexer personne.
C'est petit, petit.
Ou s'enfiler l'album d'une traite. Ceux qui choisissent la 2e option se retrouvent face à Yeud, que l'on vient juste d'écouter.
Je crois qu'il est viré.
Dieu en verlan, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Introduit par un clavecin et une voix qui rappelle celle de Nick Cave, avant qu'elle ne se mette à hurler et ne transforme le morceau en défouloir à blast de batterie estampillé black metal et basse dubstep. Houmous n'est point chiche en effets musicaux variés, puisqu'on passe de l'accordéon au hurlement, tout en savourant des cuivres de cigane et des bruits de Super NES en fin de morceau. Et oui, véridique, pour ceux que ça intéresse, il y a un making-of en 3 parties qui est diffusé sur la chaîne officielle du chanteur sur YouTube. Dans cette continuité d'effets musicaux variés, Opus Brain démarre de manière plus électronique, au style plus accessible. Mais vous avez compris le principe, ça ne dure pas. Au bout d'une minute trente, se mélange guitare classique, voix d'opéra, sitar et guitare métal pour un résultat fascinant en fait. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. À partir de ce moment-là, on est scotché, on peut plus rien faire d'autre qu'écouter l'album en entier. Magnifique piano en introduction de Problèmes d'émotion aux accents floydiens. En effet, comment ne pas penser à un Great Gig in the Sky version 2017. Ici, Igor démontre sa capacité à composer autant dans la violence que dans la douceur. On se dit que ça pourrait durer avec Spaghetti Forever, mais la guitare classique est vite remplacée par une basse écrasante, elle-même remplacée par du violon, lui-même remplacée par un break électronique. Bref, on va de surprise en surprise et on ne s'ennuie jamais. On l'écoutera dans quelques instants, Cheval bénéficie d'un accordéon très vieux Paris, qui pourrait presque se retrouver dans la BO d'Amélie Poulain, sur lequel se greffent des growls, donc une technique dont j'ai déjà eu l'occasion de parler quand je chroniquais du métal, qui est donc une technique de hurlement chanté qui est très appréciée dans le métal extrême. D'ailleurs, on pourrait presque penser à du folk metal, mais le style est trop particulier pour s'enfermer dans une case. Au passage, on salue la prestation de Laure Le Prunonec, qui chante sur presque tout l'album et qui termine la chanson en beauté. Je pensais que c'était un mot inventé, mais j'ai vérifié. Le titre... Attention, je me prépare. Apopatodiafulatophobie désigne en réalité la peur d'être constipé. Aucun rapport avec la chanson en elle-même. Joyeux bordel de 2 minutes, dans lequel on ne sait plus où donner de la tête. On reste dans les chansons courtes à nom bizarre avec Va te foutre, morceau ultra rapide au riff de basse accrocheur, mais qui passe en fait un peu inaperçu dans le reste de l'album, à l'inverse de Robert, titre complètement trippant. Un petit conseil, si quelqu'un vous dit un jour que la musique électronique et le métal ne vont pas ensemble, faites-lui écouter Robert. Enfin, le titre est significatif, Au revoir est la chanson finale de l'album. Ici, plus de métal, plus de dubstep, juste un morceau tout simple à écouter dans le noir. Même si sur la fin, ça a un côté plus grandiloquent, ça restera un morceau qui vous repose après l'avalanche qui a été l'album, qui en soi est assez court, mais dont on aura du mal à se remettre. Alors, ce Savage Sinusoid est un omni, un objet musical non identifié, facile à détester, mais difficile de savoir si l'on aime ou non. Pour ma part, j'ai aimé. Enfin, peut-être. Mais en tout cas, je salue la démarche de l'artiste Igor, qui se libère de tous les carcans pour faire une musique qui ne ressemble à aucune autre. Une musique qui lui plaît, dans laquelle il se retrouve, dans laquelle il conjugue toutes ses influences musicales, qui vont donc de la musique baroque au métal extrême, qui passe par le groupe de Blix Abargold, ancien du groupe de Nick Cave, donc le groupe Einsturzende New Barton. Voilà, il conjugue tout ça pour faire une musique qui est vouée à rester dans l'underground, mais qui est tellement riche pour ceux qui y sont sensibles. En fait, on aimerait écouter des albums comme ça un peu plus souvent.
Super, ta dernière chronique, il est d'où cet homme ?
Il est français.
Il est français, oui, parce qu'il y a Robert, pour être
Robert. Oui, c'est un français qui a joué dans plusieurs groupes de métal avant de se lancer dans ce projet, et il fait appel à d'autres chanteurs de métal aussi, donc Laure Le Prunonec dont j'ai parlé, et le 2e chanteur du groupe de Laure Prunonec, qui est donc un groupe de doom metal français.
Je trouve qu'il y a des coïncidences amusantes et musicales dans Champ Libre. Tu viens de nous parler d'un omni, objet musical non identifié. La semaine dernière, j'ai présenté un osni, objet sonore non identifié. Je me demande finalement si cette rubrique métallique ne va pas se transformer en musique sonore, tout simplement.
On peut tenter le coup.
On peut tenter le coup. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Joe, mais moi, je prends mon pied, comme dit l'autre, lorsque j'entends ce type de choses qu'aujourd'hui, des musiciens en 2017 osent faire ça dans un monde complètement aseptisé. Voilà. Il ne reste plus qu'à le distribuer et à le vendre, hein, son truc.
Ça reste le principal problème, mais l'avantage d'Internet aujourd'hui, c'est que Yo ne reste pas populaire, ne reste pas cantonné à la scène française, et au final, si on va voir les vidéos, il y a très peu de commentaires français au final. C'est énormément de commentaires anglophones, de gens qui aiment ça.
Je suis d'accord quand même que Internet, c'est pas ça qui fait les pommes de terre dans la soupe du musicien. En tout cas, il sera peut-être connu et pauvre.
Mais c'est aussi ce qui peut lui permettre ensuite de tourner ailleurs qu'en France.
Oui, aussi, ouais.
D'ailleurs, le groupe est passé au Hellfest le week-end dernier.
Très bien. Un truc satanique encore. Oh. Le Hellfest.
C'est les mauvais gens qui disent ça.
Je voulais en parler depuis longtemps. Je fais une toute petite parenthèse dans ta rubrique, mais tu verras, c'est un rapport quand même. Si vous allez vous balader sur le site de Arte, il y a quelque part un endroit où on peut...
Toute une rubrique Live Hellfest, oui.
Les concerts de Arte, ça vaut son pesant de cacahuètes, et il y a en particulier tous les lives.
Ça fait plusieurs années que Arte suit les concerts du Hellfest, en diffuse en live sur même la chaîne télévisée, et ça vaut vraiment le coup parce que, encore une fois, on salue le courage d'Arte de diffuser des musiques qu'aucun autre média ne diffuse autrement.
Alors, Damien, on revient à Cheval dans Couleur FM.
Donc Cheval, dont je parlais tout à l'heure, et puis on va y aller au trot, ou plutôt au galop. Voilà, c'était Igor Savage Sinusoid. La chanson, c'était Cheval. Et promis, c'est la dernière fois que je vous embête.
Mais non. On va parler de littérature, enfin de littérature, de bouquins, de bandes dessinées, de choses imprimées, disons. D'abord, au Mot et le Reste. Le Mot et le Reste, excellent. Éditeur chez qui je vais finir par prendre un abonnement. Le Mot et le Reste réédite donc depuis quelques jours les mémoires de Valérie Lagrange, mémoires qu'elle a écrites il y a déjà quelques années. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Valérie Lagrange, mais c'est une personne qui, au tout début des années 60, s'est fait remarquer en qualité de jeune première chez Lelouch, Godard, Philippe Garrel, Schroeder, Broca, etc. Elle était également auteure-compositrice-interprète, donc elle chantait, elle enregistrait des albums, elle a enregistré 6 albums et une dizaine de 45 tours. Et puis, en 68, comme beaucoup, y a un petit virus qui est passé par là et elle a quitté, alors, ce qui s'appelle quitter le show business pour embrasser, c'est comme ça qu'on dit, la vie et l'idéologie hippie. Alors, pas en s'habillant chez Cardin avec des pantalons pas de def, mais tout simplement en partant sur la route. Donc, Nouvelle-Guinée, Inde, Baléares, Asie, Italie, etc. Et dans ses mémoires, qui s'appellent « Mémoires d'un temps où l'on s'aimait », titre que j'aime beaucoup, dans ses mémoires d'un temps où l'on s'aimait, loin des clichés « Peace and Love », elle raconte tout ce qu'elle a pu vivre, comment elle a essayé de vivre ce rêve jusqu'à son retour en France dans les années 80, où elle va démarrer une seconde carrière musicale. Alors, elle ne cache rien des côtés sombres de l'aventure, ni des côtés lumineux. En tout cas, elle a toujours les yeux qui brillent, même si parfois ça a dû être très, très, très difficile. Voilà, Valérie Lagrange, Mémoire d'un temps où l'on s'aimait. On pourrait peut-être y penser. C'est chez Le Mot et le Reste. Deuxième chose avec du papier et de l'encre dessus, chez Futuropolis, ça s'appelle, pour ceux qui veulent apprendre à compter en anglais, 1, 2, 3, 4. Évidemment, vous avez compris, c'est une bande dessinée qui parle des Ramones. On est dans le champ libre. Alors, je lis simplement ce qu'il y a au quatrième de couverture. Prenez quatre jeunes gens totalement irrécupérables. Un ado immature et junkie, un schizophrène qui souffre de TOC, une petite frappe autoritaire et un asocial qui ne laisse personne entrer chez lui. Vous les mettez ensemble, que va-t-il en sortir? Certainement une catastrophe ou bien le plus grand groupe de l'histoire du rock.
Et puis en plus, on peut compter sur les éditeurs Futuropolis.
C'est exactement ce que raconte ce bouquin, donc l'histoire d'un des plus grands groupes de rock. Aujourd'hui, tous les membres fondateurs du groupe sont morts. N'empêche que l'influence des Ramones est toujours vivante, aussi bien dans le look que dans la musique.
Et sur les t-shirts H&M.
Eh oui, hein, même ça. Troisième chose sur lesquelles vous allez pouvoir vous précipiter. Alors, troisième, c'est en fait trois volumes d'une série, de trois. La série s'appelle Providence. Le scénario est un scénario de Alan Moore, le papa de V, de la Ligue des Gentlemen extraordinaire, etc. Et le dessin Jason Burroughs. Donc, ça raconte l'histoire d'un journaliste au New York Herald qui aspire à devenir écrivain. Il se lance dans une enquête autour d'un mystérieux ouvrage alchimique arabe datant du Moyen-Âge. Et son enquête va le conduire à faire d'étranges rencontres, à quitter sa ville, son travail, et à explorer un monde affleurant à peine à la surface de la réalité et à la limite de l'épouvante. Alan Moore réécrit dans Providence les grands mythes lovecraftiens, monsieur H.P. Lovecraft, tout en modernisant les personnages. Et quant au dessin de Jason Burroughs, c'est un dessin avec une extrême minutie et beaucoup de précision qui demande d'ailleurs, si on veut comprendre l'histoire, de bien regarder l'image dans ses moindres détails, sinon on rate plein de choses. Voilà, Alan Moore, le Providence, tome 1, 2 et 3. Le troisième est sorti aujourd'hui. Il est donc disponible dans les librairies Alan Moore, dont on reparlera en septembre, puisque fin août paraîtra le début d'une nouvelle série qui s'appelle Jérusalem, la nouvelle série. Je voudrais terminer avec un petit bouquin, on va dire, dans un genre complètement différent. Vous vous souvenez du comité invisible, ces personnes anonymes qui ont fait si peur à M. Sarkozy et à Mme Michèle Alliot-Marie, qui voyaient un groupe de terroristes d'ultra-gauche niché quelque part du côté de Tarnac. Bon, apparemment, le soufflet est un peu retombé. Les services spéciaux ont autre chose à faire, courir après de vrais terroristes, par exemple. Et le comité invisible, lui, a eu le temps d'écrire. Et ils écrivent super bien. C'est le troisième opuscule du comité invisible. Le premier s'appelait L'insurrection qui vient. Le deuxième s'appelait À nos amis. Le troisième s'appelle Maintenant. Maintenant, c'est quoi ? Ben maintenant, c'est l'avant-premier tour des élections présidentielles qu'on a vécues il n'y a pas si longtemps. Et une voix sombre, celle du comité invisible, prend acte de la ruine du politique pour ouvrir des brèches ici et là, dans un monde de plus en plus opaque. Donc, à l'avant-veille d'un premier tour incertain, le comité invisible ne réclame ni la sortie de l'euro, ni des traités internationaux, ni la modification du code du travail. Ils veulent simplement s'y soustraire tout court. Et ils le disent, soyons ingouvernables, il n'y a plus nulle part de place pour l'innocence en ce monde. Nous n'avons que deux choix entre deux crimes, celui de participer et celui de le déserter. À lire. Comité invisible, ça s'appelle maintenant, et l'éditeur, c'est La Fabrique Édition. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre dans tous mes papiers. Je voulais vous parler également d'une revue qui est morte depuis longtemps, revue de bande dessinée qui s'appelait Spirou, que je lisais à l'époque où j'écoutais Sgt Pepper, Damien. Pilote Matin, quel journal, c'était le slogan. Certainement la plus belle des revues de bande dessinée qui ait jamais existé. Il n'en reste plus, à part Spirou. Pilote a donné naissance à des tonnes de personnages plus ou moins intéressants. À Gottlieb aussi, avec ses dingos dossiers, rubrique à braque, et j'en passe. Et puis, dans Pilote, il y avait deux jeunes auteurs, il y a 50 ans, qui s'appelaient Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, qui ont démarré une série de science-fiction, c'est ce qu'on croyait au départ, qui s'appelle Valérian et Laureline, plus exactement. Et Valérian et Laureline, Valérian, c'était quoi ? C'était des personnes qui étaient des agents spatio-temporels. Alors, c'est devenu de plus en plus délirant au fur et à mesure que le LSD arrivait dans nos contrées. Et donc, ce mois-ci, comme c'est arrivé déjà trois fois ces 10 dernières années, ce mois-ci, en juin 2017, il y a un numéro de Pilote en kiosque. C'est Spirou qui a décidé, les éditeurs d'Argot, qui ont décidé de le publier. Et il est entièrement consacré au personnage de Valérian. Alors, pourquoi...
C'est un hors-série, en fait, là.
Oui. C'est un pilote.
Et tu vois, tu peux lire Pilote en écoutant Igor.
Voilà.
C'est beau 2017.
Donc, je vais arriver à la terminer, cette rubrique. Et donc, ce numéro spécial Valérian, bien sûr, va essayer de surfer sur la sortie du film Valérian de M. Besson. Film que je n'ai pas vu, dont je ne préjuge ni du succès ni du désastre que certains annoncent. J'irai le voir. Mais, ça fait quand même bien 40 ans que je prétends que de grands metteurs en scène, de grands personnages ultra connus qui ont gagné beaucoup de sous au cinéma, ont honteusement pompé leur scénarii. Je pense à un petit film américain qui a été fait en 1, 2, 3 pour commencer, plus 1, 2, 3, ensuite plus 1, plus des séries parallèles. Je crois bien que ça s'appelle...
Je ne vois pas de quoi tu veux parler.
La guerre des étoiles, je crois. Et ben, figurez-vous que si vous connaissez un petit peu Valérian et Laureline, vous verrez que le monsieur en question, dont je ne donnerai pas le nom pour ne pas lui nuire, a tout pompé. Hein, les personnages de Luke Skywalker, de la princesse, etc., c'est dans Valérian qu'il faut aller chercher, donc il serait grand temps de vous précipiter sur ce qu'on a de mieux en bande dessinée en France. Alors, on parlait de Jodorowsky l'autre fois.
Mais c'est pareil. Hein, et plus se pencher sur Mézières que sur le Besson à sortir. Enfin, simple.
On ne sait pas, on ne l'a pas vu.
Oui.
Voilà. dans Champs Libres, on essaie d'être objectif. On ne dégomme que les choses qu'on a vues ou entendues, mais pas Igor qu'on a entendu et qu'on a aimé. Oui. Dans cette émission.
Absolument.
Voilà, donc ce numéro spécial de Pilote, le journal qui s'amuse à voyager dans le temps, c'est son sous-titre, spécial Valérian, avec des tas d'articles hyper intéressants où on nous raconte les romans qui ont influencé le cinéma, les bandes dessinées de science-fiction incontournables. Je vois Barbarella de Forrest, Les Naufragés du Temps de Gillon, La foire aux immortels de Bilal, La quête de l'oiseau du temps de Le tendre et l'oiselle, etc., etc. Enfin bref, que du bon et pas uniquement du très très commercial. Et puis les romans de science-fiction tels qu'on pouvait les lire ou en tout cas tels qu'on pouvait les écrire à la fin des années 50 et au début des années 60. Voilà pour les livres. Donc je répète, Valérie Lagrange, Le mot et le reste, mémoire d'un temps où l'on s'aimait. Bande dessinée, 3 volumes de Providence à l'abîme du temps, c'est l'éditeur de messieurs Alan Moore et Justin Burroughs. Le Caden, Bettencourt et Cartier, 1, 2, 3, 4, les Ramones chez Futuropolis. Et puis ce numéro spécial de Pilote et le petit bouquin à la fabrique du Comité Invisible, intitulé « Maintenant ». L'émission approche de la fin.
Eh oui.
Ah, on a encore de la place pour un titre. Et donc, d'abord, merci Damien pour tes rubriques plus ou moins métalliques
merci
de
à vous.
Cette année.
Merci
et à vous. Bon vent, amuse-toi bien.
Bon
chez vent, les...
et bon courage à toi. Oui.
Chez les Parisiens, fais gaffe, hein, tu montes à la capitale. Hein, quand
promis,
même, hein.
Promis, le prochain titre, c'est pas du Igor.
Voilà. En tout cas, tu es le bienvenu à condition d'écouter encore de la musique audible. Joe, on se retrouvera, je sais pas quand, pour parler de cinéma.
Ah bah, pour continuer, oui, bien sûr.
Et donc, Laurent également sera là à la rentrée pour la technique. Et puis, Champ Libre, bien sûr, sera là. Pendant l'été, Champ Libre est toujours là. Ce sont les lives de l'été. Donc, chaque semaine, je vous ai préparé des concerts de groupes et de musiciens qu'on aime dans l'émission. On va terminer avec une réédition, encore une, vous allez me dire, en parenthèse, ce premier semestre, on parle surtout de réédition et de décès en musique rock. Réédition d'un album qui avait cartonné dans les années 80, c'est le Purple Rain de Prince. Il vient d'être réédité soit sous la forme d'un double CD, c'est-à-dire le disque plus quelques bonus, et puis un coffret, un petit coffret, pas cher, dans lequel il y a 3 CD, c'est-à-dire beaucoup de bonus et d'inédits, et ça vaut le coup. Et puis un DVD qui est en fait un concert de la tournée Purple Rain enregistré à Syracuse en 1985. Les images sont de qualité moyenne, mais le spectacle est grandiose. Hein. Prince est avec The Revolution, et ça vaut vraiment le détour. Donc c'est l'occasion de redécouvrir ce disque qui a marqué à la fois l'histoire de la musique funk, rock, soul, rhythm and blues, etc., puisqu'un petit bonhomme, un nabo, comme on disait à l'époque, a osé mélanger tous les styles. Faut pas oublier que Prince, dans ses deux ou trois premiers albums, est avant tout black et assez sexuellement provocant. Là, il décide de se blanchir, hein, alors pas comme Michael, mais de blanchir sa musique. Elle devient nettement plus rock et il rejoint, ça s'entend sur la guitare, il rejoint un dénommé Jimi Hendrix qui ne voyait pas pourquoi on lui disait qu'il était noir parce que lui pensait être martien. Et Prince a demandé à l'époque à ses producteurs d'arrêter de dire qu'il était noir. Il était avant tout un musicien qui faisait de la musique. Du coup, ce mélange rock, funk, punk, soul, etc., etc. Voilà. Chant libre, c'est fini. Let's go crazy, je vous le souhaite. Et c'est Prince.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
What's it all for?